Comme Montesquieu pouvait s'interroger au XVIIIe siècle sur la possibilité pour un Français d'être persan, on peut se demander aujourd'hui comment être hédoniste dans une société qui ne fait qu'annoncer des catastrophes prochaines jusqu'à sa possible disparition. C'est pourtant la position de Michel Onfray. Le philosophe est venu en principauté faire une conférence sur le principe de plaisir comme morale, à l'invitation de la Fondation Prince Pierre. Noël Fantoni lui a demandé si l'hédonisme, une version plus universelle de la philosophie du plaisir que l'épicurisme, avait encore sa place dans ce monde.
Elle a plus que jamais une place, justement, puisque il n'y a que des oiseaux de mauvais augure qui nous annoncent des catastrophes tout le temps. Et l'hédonisme n'annonce pas de catastrophe. Il annonce même plutôt des remèdes aux catastrophes. Donc il avait son sens il y a 25 siècles, il avait son sens à la Renaissance, au XVIIe, etc. Il a son sens encore aujourd'hui, me semble-t-il. C'est même aujourd'hui qu'il a plus que jamais son sens. C'est-à-dire, il s'agit de proposer une option optimiste, je ne suis pas sûr que le mot convienne, mais enfin, une option qui est positive, le mot n'est pas très joli non plus, mais dans une situation, dans une époque où on a plutôt tendance à être dans le négatif, dans la désespérance, dans le ce que Spinoza appelait les passions tristes.
Il y a une réalité, est-ce qu'une prise de position, je dirais, non pas égoïste, mais au moins personnelle, si on le considère l'hédonisme comme ça, permet de prendre en compte ces réalités-là?
Un hédoniste, c'est d'abord quelqu'un qui fait un constat du monde comme il est, qui est un tragique plutôt. C'est pourquoi tout à l'heure je résistais sur le mot optimiste, parce que c'est vrai que l'optimiste, la plupart du temps, il voit le réel au mieux, le pessimiste, il voit le réel au pire, le tragique voit le réel comme il est. Et il faut un travail tragique pour être hédoniste, c'est-à-dire en tâche de voir le réel comme il est, et puis on propose des antidotes.
Quelle serait votre définition en quelques mots de l'hédonisme?
Bon, écoutez, il y a une phrase de Champfort, qui est un moraliste du XVIIIe siècle, que je cite souvent, parce qu'elle est l'impératif catégorique de l'hédonisme. Il dit « Jouis et fais jouir, sans faire de mal, ni à toi, ni à personne, voilà toute morale ». Et je trouve que l'idée de jouir, ça paraît assez clair, mais faire jouir, donner du bonheur, donner du plaisir, etc., sans faire de mal ni à soi, ni à personne, c'est une phrase extrêmement simple, en même temps c'est un programme pour une existence tout entière. Donc l'hédoniste est celui qui dit que le plaisir, c'est le souverain bien. Le sien, le plaisir, et le plaisir d'autrui aussi. Il faut maximiser le plaisir, et il faut minimiser la peine et la souffrance. Sa douleur, sa peine, sa souffrance, il faut qu'elle soit au minimum. L'idéal, c'est même qu'il n'y en ait pas du tout. Et la même chose pour autrui. Et il s'agit de voir comment on articule cette jouissance personnelle et la jouissance d'autrui. C'est ce qui fait le charme et la définition de l'hédonisme.
Quelle différence entre l'hédonisme et l'épicurisme ?
L'épicurisme est un hédonisme particulier, c'est-à-dire qu'il y a des multiples manières de faire triompher le plaisir. Et Épicure nous dit, voilà, le plaisir, je le définis comme ce qu'il appelle l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble. J'ai faim, par exemple, eh bien, si je mange, je supprime la douleur qu'il y a à avoir faim. Eh bien, il y a du plaisir à manger, justement, parce qu'on fait supprimer, on supprime une douleur. Même chose avec la soif. Et Épicure nous dit, il n'y a que ces désirs-là qui sont susceptibles d'être satisfaits. Épicure, il ne dit rien d'autre. Il dit, voilà, manger quand on a faim, boire quand on a soif, et juste ce qu'il faut pour ne plus avoir faim et ne plus avoir soif. Donc, pas de choses luxueuses, pas question de manger du foie gras et de boire de l'ikem. On n'est pas du tout dans ces perspectives-là. Et Épicure nous dit, le reste, c'est même pas utile de satisfaire tout ça. Les honneurs, le pouvoir, l'argent, les richesses, sont des désirs non naturels et sûrement pas nécessaires. Donc, c'est une des modalités de l'hédonisme, l'épicurisme, mais il y en a de multiples autres.
L'hédonisme a une dimension altruiste, ce n'est pas donc un égoïsme forcené.
Il y a des façons diverses et multiples d'être hédoniste, il y a des mauvaises façons d'être hédoniste, il y a des façons égoïstes, il y a des façons bourgeoises, il y a des façons de propriétaires, il y a des gens qui pensent que la jouissance passe par la négation d'autrui, que la jouissance ça peut être l'avoir, l'accumulation de richesses, etc. Ça c'est pas l'hédonisme que je défends, moi je défends effectivement un hédonisme qui soit altruiste, qui soit soucieux du plaisir et du bonheur de l'autre. Je crois que le plaisir de l'autre est constitutif de mon propre plaisir. Et en ce sens, il faut illustrer des versions qui seront modernes et altruistes, alors qu'il y a des versions féodales de l'hédonisme. Et ce sont des versions auxquelles je m'oppose absolument.
Est-ce qu'il y a une éthique de l'hédonisme ?
Oui, cette éthique qui suppose qu'on doit faire à autrui ce que nous voudrions qu'il nous fasse. C'est la, C'est l'impératif, je dirais.
C'est un impératif conscient, ça ?
Ah non, sûrement pas. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, dans la logique chrétienne, et non pas fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse. C'est pas du tout la même chose. Il y a une façon dans le christianisme d'être dans la négativité, christianisme et kantisme, c'est la même chose. Et on est dans la prescription négative, alors que là on est dans la prescription positive et on dit fais à l'autre ce que tu voudrais qu'il te fasse. Et comme on est toujours un autre pour l'autre, normalement on devrait aussi récupérer les bénéfices de cette façon d'agir d'autrui.
D'une éthique, ça peut passer à une morale, c'est-à-dire que c'est un comportement, dirais-je, qui peut être adopté par un ensemble de personnes.
Oh, vous savez, éthique et morale, c'est le même mot. Hein. Éthique en grec et morale en latin, mais ça veut dire la même chose. Si on veut vraiment distinguer, on peut consentir à des définitions d'école et dire que l'éthique, c'est la science des vertus en tant que telle, et que la morale, ce sont les prescriptions vertueuses qu'on nous fait, c'est-à-dire on disserte sur la théorie du bien et du mal quand on fait de l'éthique, et puis quand on nous dit voler c'est pas bien, faire le bien c'est bien, ou donner de l'amour ou de la tendresse c'est bien, on fait de la morale. Mais vous voyez qu'on peut pas faire l'un sans l'autre.
On a l'impression que l'hédonisme supprime le problème du mal. Est-ce que j'ai tort ou en se faisant du bien, je dirais. Mais...
Ah ben oui, vous avez gravement tort, parce qu'il ne fait que ça, l'hédonisme. C'est-à-dire, il dit, voilà, il faut conjurer et congédier toute négativité et tout ce qui est mal. Donc tout ce qui est douleur, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est mort, tout ce qui est crainte de la mort, peur du néant, ou ce genre de choses. L'hédoniste est celui qui part de la négativité en disant qu'il faut qu'elle soit la moindre. Et il faut qu'on la fasse disparaître, aussi bien pour soi que pour autrui. Donc le grand problème de l'hédoniste, c'est effectivement la conjuration du mal.
Et est-ce que la science a une quelconque importance pour l'hédoniste ?
Je tâche de montrer qu'il y a des biotechnologies aujourd'hui et que les biotechnologies sont susceptibles d'un usage hédoniste. Et que faire reculer la douleur, la souffrance, dans des perspectives par exemple d'euthanasie, dans des perspectives de génie génétique, dans des perspectives de transgenèse, tout ça est l'occasion de faire reculer le mal et donc d'augmenter le bien, donc l'hédonisme.
Mais j'ai l'impression que un hédoniste définit le mal par rapport à la souffrance seulement, je dirais, qui ne prend pas le mal métaphysique.
Ça n'existe pas, le mal métaphysique. Qu'est-ce que vous voulez faire d'un mal métaphysique qui serait totalement déconnecté du mal réel ? Moi, je ne suis pas philosophe au sens Sorbonne du terme, c'est-à-dire des philosophes qui passent leur temps à disserter sur le mal avec un M majuscule et qui font des dissertations à n'en plus finir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la douleur concrète, c'est la souffrance réelle, c'est le corps de quelqu'un qui va mourir parce qu'on lui a dit qu'il était dans une logique d'un cancer en phase terminale, c'est la souffrance de la mère qu'on frappe, de la femme qu'on frappe, c'est la souffrance de celui qui meurt de faim. Le mal, pour moi, c'est ça. On ne va pas disserter sur le mal, comme ça, M majuscule, je ne suis pas André Glucksmann, moi. C'est-à-dire qu'il y aurait une espèce de mal, comme ça, de bien, aussi, avec un B majuscule. Ça, ça a 25 siècles, cette façon de procéder, de croire qu'il y aurait un mal absolu et qu'il faudrait faire une dissertation métaphysique sur le mal. Ça va bien quand on veut entrer à normal sup ou en sortir ou décrocher l'agrégation. Mais si on philosophe, on réfléchit sur des douleurs réelles, concrètes, existentielles, matérielles, terrestres, immanentes.
Donc c'est une philosophie très matérialiste.
Absolument. Elle est matérialiste au sens où il n'y a pour l'hédonisme que de la matière, que de ce que Deleuze appelait des plans d'immanence, c'est-à-dire il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas d'en-deçà non plus, il n'y a que ce monde-ci. Il n'y a pas une idée du mal, il n'y a pas un mal majuscule, il y a de la négativité dans des situations particulières.